quand l'on vous a exposé et le sacrement de confession dans les différentes leçons que nous avons eues pour ce carême, elle a un aboutissement. Et cet aboutissement, c'est la communion. Alors, quand, pour des raisons de faiblesse et des raisons aussi de société qui nous poussent à la faiblesse, ou qui nous mettent dans l'ignorance de l'Eucharistie, de la présence de Jésus dans la Sainte Hostie, eh bien on en est privé. De la même façon, quand je vous parlais des personnes, des Incas des années 700, ils n'avaient pas la confession. Mais eux, ils avaient la contrition. C'est ça qui les sauvait. Quand nous, on va arriver à dans la vie éternelle, eh bien, nous verrons des personnes de fausse religion qui se seront sauvées. Et parce que, malgré les erreurs de leur fausse religion, ils auront eu un cœur sincère, droit, de bonne foi, et ils auront toujours recherché le bien. Qu'ils savaient. C'est-à-dire qu'ils n'en savaient pas grand-chose, mais ils en savaient suffisamment pour agir en vérité. Et avec cette vérité, dont ils étaient conscients, car la conscience est un jugement objectif sur nos actes et nos pensées, on ne crée pas notre conscience, on l'a, vous voyez. Ce jugement sur le vrai ou le faux en nous, eh bien ensuite, si c'est en adéquation avec la volonté, eh bien Dieu nous récompense. Eh bien, c'est embêtant, c'est qu'il y en a qui sont privés de cette grâce extraordinaire d'être certains du pardon par la confession, au point que je vous avais dit que des soldats se confessaient les uns aux autres quand il n'y avait pas de prêtre, hein, alors qu'ils étaient à l'agonie. Hein. Ensuite, vous avez la merveille qu'est l'Eucharistie. Ben, vous avez des gens qui sont morts sans Eucharistie, mais qui avaient la Sainte Trinité qui habitait dans leur âme, parce qu'ils étaient pleins de volonté et d'ouverture à la grâce pour aimer Dieu et leur prochain. Mais c'est cette vérité trop élargie qui fait que de nos jours, on va dire, eh ben, c'est pas grave d'être chrétien ou pas chrétien du moment qu'on est gentil. Oui, mais enfin, est-on certain qu'on est si gentil que ça, si bon que ça? Parce que je me souviendrai toujours de cet exemple, hein, de ce jeune homme de 15 ans qui disait, moi j'ai un oncle qui va jamais à la messe, qui dit qu'il ne croit pas, mais il est bien plus gentil que tous les autres membres de la famille. Alors je lui ai dit, oui, mais jamais il ne te consolera lorsque quelqu'un mourra. Lorsque ta mère mourra, que ta sœur mourra, ou tout ça, il te dira, mais il n'y a rien après la mort. Mais ça en soi, vous voyez, excusez-moi de le dire, c'est pas très gentil. C'est peut-être une ignorance de sa part ou un aveuglement de sa part. Mais en soi, voyez-vous, de dire à quelqu'un, voilà, ta mère est morte, eh bien voilà, elle restera dans ton souvenir et tout ça. Eh bien, c'est pas suffisant. Vraiment pas suffisant, je suis désolé. Eh bien là, voyez-vous, on peut ne pas savoir que Jésus est présent sur terre, mais combien de fois le bon Dieu nous a insisté sur cette présence. Voyez, dans les apparitions reconnues par l'Église, vous avez des paroles très très belles sur la présence de notre Seigneur. À Akita, Notre-Dame d'Akita en 1973, l'ange dit à la religieuse, maintenant vous ajouterez la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Déjà, ils avaient une prière, vous savez, la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Eh bien, l'ange a dit, rajoutez réel. C'est amusant, parce que déjà, de dire que Jésus était présent dans la Sainte Eucharistie, c'était déjà très bien. Mais l'ange, hein, théologien patenté, a dit, vous rajoutez réel. Alors, la leçon, comment dire, qui suit naturellement la libération du péché dans la contrition, c'est de recevoir l'Eucharistie. C'est pour ça que le carême arrive sur la communion pascale. Eh bien, il y a un petit livre qui est vraiment assez exceptionnel. Et là, je laisse l'enregistrement parce que je peux pas faire vraiment autrement, étant donné que j'ai fait des photocopies. C'est pas bien, vous voyez. Mais je ne sais pas si on peut le retrouver facilement. Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai. Enfin, oui, non. Comme tout fraudeur, hein, c'est pour pas dépenser d'argent. Donc, c'est le petit catéchisme eucharistique présenté par le cardinal Arinze. Le cardinal Arinze est le était le préfet de d'une congrégation romaine. C'est curieux, ils ne le mettent plus. Cela a été élaboré par l'Institut Saint-Clément Ier, pape et martyr, avec les dessins de Laura Pietra et de Mirko et Rosa Pelliccioni, aux éditions Parole et silence, pour la somme de 10 euros, sous la direction du père Roberto Coggi, C-O-G-I, dominicain. Et c'est extraordinaire. Donc, si vous prenez le petit résumé que j'ai fait, il part de très des fondations pour arriver jusqu'à l'Eucharistie. Pourquoi devons-nous croire en l'Eucharistie? Et c'est des réponses extrêmement catholiques, très fortes. On n'est vraiment pas dans le fumeux, hein, vraiment pas. Et la réponse, les réponses claquent à chaque fois d'une très belle vérité. Oh la belle bleue, oh la belle rouge, un feu d'artifice théologique, ce petit livret. Pourquoi devons-nous croire en l'Eucharistie? Parce que l'Eucharistie est une vérité de foi. C'est pas parce que ça nous fait redoudou au cœur qu'on va croire que Jésus est présent dans l'hostie. C'est parce que c'est vrai. Ah bon? Ben oui. Et pourquoi vous êtes au carrefour? Ben parce qu'il y a un accident et je dois faire le constat. Ah bon, vous n'êtes pas là parce qu'il fait beau aujourd'hui et que vous vous promeniez? Non, je suis policier et j'aide au constat, il y a eu un accident. Ah, il y a eu un accident. Et vous êtes sûr qu'il y a eu un accident? Peut-être que c'est dans la pensée de ceux qui sont ici et que, en fait, est-ce que c'est réel, véritablement, ce métal tordu? C'est oui, hein, il a mangé le volant. Hein, parce qu'il n'avait pas d'airbag. Il va falloir savoir qui a provoqué l'accident. Mais vous pensez pas que on est tous coupables en quelque sorte? Insulte à agent, 90 euros d'amende et clac. Voilà, l'idéaliste, le fumeux. L'Eucharistie est une vérité de foi. Content, pas content. Voilà. C'est ce que ça sous-entend, hein, cette réponse. Que signifie? Et alors là, après, c'est la grosse Bertha. Voyez. La grosse Bertha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un canon allemand pendant la Première Guerre mondiale qui tirait des obus extrêmement gros et lourds de près de, des zones occupées par l'Allemagne sur Paris. Et donc les Parisiens entendaient la grosse Bertha, les obus de la grosse Bertha qui traversaient 30 km. Enfin, c'était un canon qui était sur des rails. Alors, préparez-vous aux réponses, hein. Et que signifie vérité de foi? Cela signifie une vérité que Dieu nous a communiquée en nous parlant. Ah, là c'est quand même mignon. Comme à des amis auxquels il voulait révéler ses secrets. Mais que Dieu nous a communiqué en nous parlant. C'est-à-dire que c'est une révélation. Mais comme à des amis auxquels il veut révéler ses secrets. Mais c'est réel, ça a été enseigné. Jésus dit, mon corps est un véritable nourriture, mon sang un véritable breuvage. Et vous avez ceux qui l'entourent et disent, mais il est fou. C'est de l'anthropophagie. Mais pourquoi Jésus insiste tant? Il aurait pu dire, ah mais non, c'est symbolique. Ah, ben voilà, vu comme ça, c'est bien. Non. Comme je vous parlais des sacrifices de l'Ancien Testament, et comme je vous parlais des sacrifices de la religion naturelle, on veut communier avec la divinité. On veut faire un avec la divinité. Donc le sacrifice qui est offert, on le mange. Et, ben, Jésus, eh bien, on le mange. On se l'assimile. Et comme c'est pas de l'anthropophagie, qu'est-ce qu'on assimile ? La nature humaine unie à la nature divine dans la personne de Jésus pour notre nature humaine. On est divinisé par la grâce. Et nous serons encore plus divinisés en voyant Dieu et en entrant dans cette vision face à face avec la nature divine. Et on pourra pas la saisir entièrement. Notre intelligence ne pourra pas saisir l'infinité de Dieu. Mais ce qu'on saisira nous contentera très bien. Sommes-nous certains que les vérités de foi soient des vérités authentiques ? Oui. Nous en sommes absolument certains. Il n'y a pas une place où je doute. Oui. Est-ce que j'existe ? Ah oui. Si vous êtes mangé la table, c'est que vous existez. Si vous aviez. Voilà. Nous en sommes absolument certains, puisque Dieu, qui nous les a révélés, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est la cause de l'acte de foi, hein, parce que Dieu l'a révélé et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il ne peut se tromper parce qu'il est infiniment intelligent et infiniment savant. Il ne peut pas non plus nous tromper parce qu'il est infiniment bon et qu'il ne peut pas vouloir nous faire du mal en nous enseignant des choses fausses et impossibles à réaliser. À qui Jésus a-t-il révélé ses vérités ? Jésus les a révélées tout d'abord aux apôtres en leur demandant de les enseigner ensuite à tous les hommes de tous les temps. Mais comment les 12 apôtres qui étaient des hommes mortels peuvent-ils continuer à enseigner ces vérités jusqu'à la fin du monde ? Ils n'ont pas pu le faire personnellement, mais ils ont accompli leur devoir en instituant des successeurs. Saint Paul sacre des évêques avec imposition des mains, comme le grand prêtre imposait les mains à son successeur. Mais là, c'est dans le sacerdoce du Christ, c'est plus dans le sacerdoce lévitique de la tribu d'Aaron. Enfin, de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. C'est tout homme peut devenir prêtre. À la mort des apôtres, leurs successeurs ont continué leur mission. Qui sont les successeurs des apôtres ? Ce sont les évêques, avec à leur tête le pape. Mais comment pouvons-nous savoir que les évêques, avec à leur tête le pape, ne se trompent pas en nous enseignant les vérités révélées par Dieu ? Nous sommes certains qu'ils ne se trompent pas parce que Jésus leur a assuré l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons et nous devons dire que l'enseignement des évêques avec à leur tête le pape est infaillible. Jésus a dit « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette ». Donc l'enseignement de l'Église sur des vérités ne peut pas changer non plus. Magistère ordinaire universel, l'enseignement de l'Église. Magistère, ça veut dire enseignement. Donc si un pape, tout d'un coup, disait « Ah ben, je sais pas, c'est plus la peine de se confesser », bing, il est hérétique, bing, il n'est plus pape. Il est déposé. Et comme on ne peut pas juger le pape, il faut que ça soit l'autre pape, enfin, les cardinaux se réunissent, constatent l'hérésie, se dépêchent d'élire un nouveau pape, pour que le nouveau pape dise « Ce pape-là a déchu de sa papauté ». Oh là 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 là, grosse crise, vous voyez. Et si lui reconnaît son hérésie et dit, eh bien, je ne suis plus catholique, là, tout le monde se fait ouf. Enfin, on prie pour lui parce que c'est dommage pour lui. Mais s'il dit, non, je ne me suis pas trompé et je suis toujours le pape, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Un schisme. Voilà. On est toujours heureux de vivre, si vous voulez, les péripéties humaines, hein. Mais si Dieu pouvait nous l'éviter, nous serions bien heureux encore plus. Comment se nomment les vérités que le pape et les évêques nous ont enseignées infailliblement ? Elles se nomment les dogmes de foi. Y a-t-il beaucoup de dogmes de foi ? Ils sont assez nombreux. Ils ont été formulés successivement au cours des siècles, surtout pour répondre à certaines erreurs qui surgissaient dans le peuple chrétien. Les dogmes auxquels l'Église nous demande de croire pour être chrétien ne sont-ils pas une limitation à notre liberté ? Au contraire, Les dogmes sont pour nous une aide immense, comme les signaux de route nous empêchent de tomber dans le ravin. Vous voyez, vous êtes là, je dis, je ne crois pas qu'il y a un tournant ici. Ben, vous allez tout droit, vous allez dans le ravin, et vous arrêtez d'embêter le monde. Vous voyez. Il y a des vérités, oui, il y a un tournant. Non, il n'y a pas de tournant. Il y a un mur, non, il n'y a pas de mur. Et ben, vous prenez le mur. Ah, quand même, à un moment donné, c'est une libération. Comme les signaux de route nous empêchent de tomber dans le ravin, de la même façon, les dogmes de foi nous empêchent de tomber dans l'erreur. Voyez. Nous devons toujours remercier le Seigneur pour les dogmes qu'il nous a révélés et l'Église parce qu'elle les a formulés d'une façon claire et précise. Vous avez vu les dessins comme ils sont beaux? Ils ont autant d'humour que moi. Ouais. Pourquoi l'Église formule-t-elle des dogmes alors que nous avons déjà la Sainte Écriture, c'est-à-dire la Bible, et en particulier les Évangiles? Pourquoi on a besoin des papes, hein? On a la Bible. Ce petit catéchisme, hein, ça rigole pas, hein, c'est le cardinal Arinze. Hein. L'Église formule les dogmes parce que la Sainte Écriture a besoin d'être interprétée. Ça, c'est Saint Pierre qui le dit. Hein. Il y a des choses pas... Et Saint Paul aussi, mais Saint Pierre dit, il y a des choses qui ne sont pas claires et il faut qu'elles soient interprétées. En effet, l'histoire montre que beaucoup l'ont interprétée à leur façon et certaines d'une façon différente des autres. S'il n'y avait pas l'Église pour nous dire quelle est l'interprétation juste, nous serions toujours dans le doute et nous n'aurions jamais de certitude. Si quelqu'un n'accepte pas un dogme de foi, peut-il continuer à se dire chrétien catholique ? Non. Pour être chrétien catholique, il faut croire fermement à tous les dogmes de foi, à tous, sans exception. Si on n'accepte pas, ne serait-ce qu'un seul dogme de foi, cela veut dire qu'on n'accepte pas l'autorité de Dieu, ni l'autorité de l'Église. Et cela signifie qu'on n'a plus la foi. Si je doutais, ne serait-ce que d'une chose que mon ami m'a révélée en m'assurant qu'elle était vraie, cela signifierait que je doute de lui, et donc aussi de toutes les autres choses qu'il peut m'avoir dites. Ben, l'amitié, elle est finie, hein, normalement. Donc, je n'aurai plus foi en lui. Ainsi, celui qui doute même d'un seul dogme n'a plus foi en Dieu. Eh ben. Les vérités principales, ce sont l'unité et la trinité de Dieu, l'incarnation, la passion rédemptrice, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce seulement la foi qui nous fait connaître ces vérités ? Qu'il n'existe qu'un seul Dieu, la raison peut le découvrir toute seule, sans l'aide de la foi. Eh oui, pas d'effet sans cause. L'être qui donne l'être, mais qui ne l'a pas reçu. Sinon, on remonte, qui de la poule et de l'œuf. Et à un moment donné, il y a un acte d'intelligence qui vient d'un être intelligent. C'est pas ni le hasard, ni le temps. Contrairement aux évolutionnistes athées. On peut admettre une évolution conduite par une intelligence et une puissance créatrice, personnelle et intelligente. Mais pas le hasard et le temps. Pas vrai. Mais même, c'est déraisonnable de penser qu'on a des yeux en face des trous par hasard. Mais c'est pas normal. C'est déraisonnable. Et quand vous avez un certain... Mais non, tout ça, c'est fait par hasard. Hein, le papillon a des ailes par hasard, des couleurs par hasard, tout par hasard. Il pleut par hasard, les graines poussent par hasard. Ben dis donc, quel heureux hasard, franchement. Mais que ce Dieu unique soit en trois personnes, et que la seconde personne se soit incarnée, nous le savons seulement par la foi, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'autorité de Dieu qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est ça la foi, s'appuyer sur l'autorité et la crédibilité d'une personne. Nous le savons seulement par la foi, c'est-à-dire que nous le savons seulement parce que Dieu nous l'a révélé. Comment la raison peut-elle découvrir que Dieu existe? Elle peut le découvrir en partant de l'existence des choses. Celles-ci se révèlent changeantes, elles commencent et finissent, donc leur existence ne s'explique pas si on ne remonte pas à un être éternel et immuable. Si nous pensons à l'extraordinaire complexité et à l'ordre admirable qui se manifeste chez les êtres vivants, nous devons nécessairement admettre que ces êtres ont été projetés par un esprit suprême. L'ordre de l'univers nous porte à croire à l'existence d'un ordonnateur. Et comme cet ordre se trouve dans les choses elles-mêmes, cet ordonnateur doit être aussi leur créateur. On peut aussi arriver à l'existence de Dieu par ce raisonnement. Dans ce monde, il arrive souvent que les bons souffrent et les mauvais vivent dans la tranquillité et le bonheur. Ceci se révèle injuste si nous nous refusons à l'accepter. Il doit donc y avoir un juge juste qui, après cette vie, récompense les bons et punit les méchants. Ce juste juge est précisément Dieu. Si on nie Dieu, tout l'ordre moral s'effondre. Et c'est la première raison pour laquelle les athées, en général, sont des débauchés. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, écrivait un grand romancier russe. Dostoïevski. Que faut-il dire, par contre, de la Trinité ? De la Trinité, nous devons dire qu'elle est une vérité révélée par Dieu et que notre raison n'aurait jamais pu la découvrir toute seule. Elle est le premier mystère principal de notre foi. Ce mystère consiste dans le fait que le Dieu unique existe en trois personnes égales et distinctes qui sont respectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comment est-il possible que trois réalités distinctes soient une seule chose ? Ceci peut devenir plus clair avec un exemple. Pensons à un triangle équilatéral. Les trois angles forment la même surface. L'angle est une partie de plan, c'est-à-dire une surface, comme enseigne la géométrie. Et pourtant, ils sont distincts entre eux et ne peuvent être confondus l'un avec l'autre, les trois angles. Ainsi, les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont le Dieu unique, et pourtant elles sont distinctes entre elles et ne peuvent pas être confondues l'une avec l'autre. Bon là, on est en pleine géométrie, hein. Le second mystère principal de notre foi est l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie incarnation ? Incarnation signifie que la deuxième personne divine, le Fils, né du Père avant tous les siècles, c'est-à-dire dans l'éternité, unie à lui, à un certain point, la nature humaine, s'unit à lui, hein, à un certain point la nature humaine, et ainsi devient aussi homme sans cesser d'être Dieu. C'est ce que nous disons dans le Credo. Le Fils, né du Père avant tous les siècles, s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Naturellement, sans cesser d'être Dieu. En Jésus-Christ, nous avons donc l'unique personne du Fils, ou Verbe, qui possède deux natures. La nature divine qu'il possède de toute éternité et la nature humaine qu'il a commencé à posséder au moment de l'incarnation. Où cette vérité de foi apparaît-elle dans l'Évangile ? Elle apparaît chaque fois que Jésus, qui était vraiment un homme, c'est-à-dire qu'il possédait une vraie nature humaine, affirme aussi être, par exemple, lorsqu'il dit, Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ou lorsqu'il approuve la profession de foi de saint Thomas l'apôtre, saint Jean chapitre 20, verset 28, saint Thomas dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu, » et Jésus ne le détrompe pas. Donc, c'est vrai. Pas rien, hein ? On oublie. Passons maintenant au mystère eucharistique. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a plusieurs dogmes de foi concernant l'Eucharistie ? Oui. L'Église nous a révélé beaucoup de choses concernant l'Eucharistie. Et donc, un dogme ne suffit pas à exprimer ce mystère. D'où vaut-il mieux commencer si on veut approfondir le mystère de l'Eucharistie ? Il vaut mieux commencer par l'Évangile, en se laissant guider dans sa lecture par ce que l'Église enseigne. De cette façon, on comprend finalement que tous les dogmes qui concernent l'Eucharistie ne sont rien d'autre qu'une explication claire et certaine de ce qui est contenu dans l'Évangile. Petit commentaire du beau dessin qui est en bas, c'est la manne. Alors le dessin est un peu maladroit, on a l'impression que ce sont les oiseaux qui font descendre la manne. Les oiseaux, c'est le miracle des cailles. C'est différent de la manne. Hein. C'est un autre moment. Donc, il y a une petite erreur dans ce dessin, dans le sens que la manne, c'est ce qui était trouvé tous les matins par les Hébreux. Une sorte de gelée, hein, une sorte de... Le matin, c'est là, la rosée. Sauf que cette rosée était solide, était gélatineuse. Et ils en mangeaient tous les matins pendant 40 ans. Et à un moment donné où ils en avaient quand même assez de prendre cette gelée, qui en soi avait un goût délicieux, et même un goût changeant, et là, ils voulaient avoir autre chose dans la bouche. Ils disaient, on voudrait de la viande. Et Dieu dit, vous n'êtes pas content avec la nourriture que je vous donne? Non. Dire non à Dieu, hein, il faut prendre du recul, tout ça, avoir des cacahuètes, hein, parce que c'est Moïse a dit non à Dieu, mais c'était au nom de la miséricorde, donc ça marchait, vous voyez. Mais là, c'était au nom de rien du tout. Alors Dieu a envoyé des cailles le lendemain. Il n'y avait plus de manne. Alors, et les cailles volaient très bas. Alors, ils les attrapaient, tout ça, et là, ils les ont fait cuire, ils étaient tout contents. Le deuxième jour, toujours pas de manne, mais des cailles, des cailles, des cailles. Le troisième jour, pas de manne, mais des cailles, des cailles, des cailles. Quatrième jour, et tout ça, et ça pendant 30 jours. Donc, à la fin, ils n'en pouvaient plus de manger des cailles. Hein? La Sainte Écriture nous dit qu'ils en avaient entre les dents, ils n'en pouvaient plus. Et donc, ils ont eu à nouveau de la manne. Ils étaient bien contents. Voilà. Donc, petit commentaire du dessin. Avant Jésus, qui nous a laissé son enseignement dans l'Évangile, le peuple hébreu avait pu se nourrir dans le désert d'une nourriture miraculeuse, la manne, une annonce du don de l'Eucharistie. Ça vient de Manou. Manou, en hébreu, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Parce que quand ils sont sortis de leur temple le matin et qu'ils ont vu cette gelée, ils ont dit « Manou voilà. ». Qu'est-ce que c'est? Eh ben, à table, voilà. Le peuple hébreu est libéré de l'esclavage des Égyptiens et dans la nouvelle Pâque, rappelé en chaque Eucharistie, Jésus est venu apporter à tous le salut. Dans l'Ancien Testament, Melchisédek, prêtre du Très-Haut, offre du pain et du vin, figure de l'Eucharistie. Livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Le sang de l'agneau répandu sur les portes préfigure le sang de Jésus versé pour nous et présent dans chaque Eucharistie. Livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Et vous avez un dessin assez exceptionnel, hein, puisque l'agneau vient d'être immolé dans la famille juive et le père de famille met le sang sur le linteau. Et vous avez l'ange exterminateur qui est là présenté comme un petit chérubin bien sympathique, hein. Sauf quand il passe dans les maisons des Égyptiens, là il devient beaucoup moins sympathique. Et, mais là, ça fait mignon, hein, comme ça, vu comme ça. Youhou ! Bonjour, ange exterminateur. Ah, le noir ne m'est pas permis, je suis dans la vision divine. Ah. Il est en violet quand même, hein. Pas bon signe, voilà. Le sacrifice d'Isaac préfigure le sacrifice de la croix rendu présent dans l'Eucharistie. Vous voyez, Abraham, c'est exactement la vraie scène, hein. Sauf que c'était pas sur un surplomb comme ça, puisque c'était, actuellement, il y a la mosquée du Dôme, au-dessus du rocher d'Abraham. En l'honneur, alors, pour les musulmans, c'est Ismaël, pour les juifs, et pour la Bible, hein, c'est Isaac. Hein. Le Coran essaye de tirer la couverture aux peuples arabes. On comprend, mais bon, historiquement, ce n'est pas juste. Et vous avez l'ange, là, qui arrête le bras d'Abraham. Alors, l'ange est figuré comme un petit garçon bien gentil, hein. Enfin, voilà, la scène est quand même dramatique, hein. Si vous voulez, à un moment, Dieu le Père a laissé l'homme tuer son fils. Et comme il aurait pu empêcher que son fils ne meure, on peut dire que le Père que ça allait jusqu'au bout, hein. Vous savez, sacrifice d'Abraham, c'est pour ça que la religion juive s'épanouit dans la religion chrétienne. Hein. C'est c'est la même religion. Sauf que actuellement, il faut inviter les juifs à reconnaître Jésus comme leur Messie, et non pas à leur dire « restez juifs ». Parce que, comme dit saint Paul de manière assez brutale, et que moi je ne peux pas le dire, j'ai vu je me demande si j'ai pas vu l'ancien rabbin de France, c'est pas l'actuel que j'ai vu. Un noble vieillard qui était là, avec entouré de deux acolytes, deux rabbins comme lui sans doute, plus jeunes, mais ils avaient de vraiment de nobles visages. Et donc, si vous voulez, mais c'est très bien, mais ils avaient les grands chapeaux, en toute charité, je ne peux pas leur dire que c'est bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie et comme leur Dieu aussi. La promesse de l'Eucharistie.